Bonjour à tous, une réunion au ministère des Sports ce matin autour du coronavirus alors que de nombreux événements sportifs sont menacés depuis que le gouvernement a décidé d'interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes. Le match de Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund prévu mercredi pourrait se jouer à huis clos. C'est en tout cas le scénario qui se dessine. C'est au préfet de prendre la décision. Et alors que le nombre de cas continue d'augmenter en France, 1126 et 19 morts, les craintes sont fortes. Selon le sondage IFOP publié par 20 minutes, plus d'un Français sur quatre envisage de ne pas voter au municipal. L'enquête révèle également que plus d'un Français sur quatre a fait des réserves de nourriture ou de gel hydroalcoolique. Du gel hydroalcoolique, on en trouvera à Mulhouse dimanche. Les 64 bureaux de vote seront équipés de gel et de gants chirurgicaux pour se désinfecter les mains. Après chaque vote, les machines seront systématiquement désinfectées, ainsi que les stylos servant aux électeurs à parafer les registres. Mulhouse est l'un des foyers de la maladie. Quatre gilets jaunes jugés aujourd'hui pour l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay. C'était en décembre 2018. Ce jour-là, plusieurs personnes avaient pénétré dans la cour de la préfecture en forçant les grilles. Des cocktails Molotov avaient ensuite été lancés sur le bâtiment, blessant 18 policiers et gendarmes. Erdogan attendu aujourd'hui à Bruxelles. Le président turc doit aborder la question migratoire avec les dirigeants de l'Union européenne, alors que l'UE envisage de prendre en charge 1500 enfants migrants bloqués sur les îles grecques. Des milliers de migrants tentent de passer la frontière entre la Turquie et la Grèce depuis que Erdogan a décidé de ne plus respecter un accord avec l'Union européenne. Le foot, la fin de la 28e journée de Ligue 1 hier soir, défaite de Lyon à Lille 1-0. À retenir également le carton de Rennes face à Montpellier 5-0 et le match nul 1 partout entre Saint-Etienne et Bordeaux. Et puis le département des Landes en vigilance orange pour des risques d'inondation. Météo France met en garde contre une crue importante de l'Adour. C'est la fin de cette édition. Passez une excellente matinée.
C'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Eh bien, bonjour, bonjour à chacun d'entre vous, bonjour à vous messieurs et bonjour à vous mesdames. Alors j'espère que monsieur ne vous a pas oublié ce dimanche, et oui, la journée internationale de la femme. L'année 2020 constitue l'occasion inespérée de susciter une action d'envergure mondiale pour parvenir à l'égalité des sexes et au respect des droits fondamentaux pour toutes les femmes et les filles. Vaste programme. Alors j'espère que monsieur vous a au moins fait la vaisselle, madame. Le thème de cette année était « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Voilà, nous avons été, mesdames, l'espace d'une journée des petites Danettes.
Déjà dur, tout dans nos musculatures, et toutes ces bagarres qu'il nous tarde. Elle, belle, elle nous regarde, nous ravis qu'on nous admire, nous, nos salaires et nos sourires, et tous ces défauts que l'on farde. Armures, nos mains en dessous des voitures et tous ces bars qui nous retardent. Elle, belle, elle nous regarde. Nous, nos envies et nos hormones, nous, nos treillis verts et jaunes, nous devant quand ça bombarde. Saura-t-on jamais ce qu'elle pense d'en haut de leur belle patience? Est-ce qu'elles nous prennent pour se connaître? Des bénets abonnés aux bonnes manières comme les anniversaires fantômes des lointains, des touristes inconnus chez le fleuriste. Nous les bobos qui chagrinent, nous nos corps à la médecine pour une piqûre, une écharde. Elle, belle, elle nous regarde. Mais nous jamais dans les cuisines, nous confondre vaisselle fine avec les verres à moutarde. Saura-t-on jamais ce qu'elle pense d'en haut de leur belle patience? Est-ce qu'elles nous prennent pour se connaître? Des bénets abonnés aux bonnes manières comme se garer sur les géraniums, des lointains, des touristes inconnus chez le fleuriste. Nous perdus dans ce mystère, sans elle, comment faire? Alors toute notre vie bavarde d'elle, belle, qui nous regarde. Toute notre vie, on bavarde d'elle, belle.
Francis Cabrel avec une bien belle chanson, il faut le dire, et c'est sur Radio Plus. Mais on vous aime, messieurs hommes que vous êtes, et n'oublions pas que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Alors ne cherchons pas à nous ressembler, mais soyons complémentaires. Et cette nouvelle édition de l'Air du Temps, eh bien, dans cette émission, ce sont trois messieurs qui seront avec moi et qui nous distilleront leur savoir. Alors d'abord, Jean-Louis Ouatté, président de l'Étrême Nature, nous parlera d'un sujet qui fâche, le fléau des mégots jetés par terre. Et il n'y a plus que les messieurs qui font ça. Non, non, mesdames, vous le faites aussi. Et oui, parce que non seulement le tabac est un véritable fléau pour la santé, mais il a également des conséquences dramatiques pour l'environnement. Et accrochez-vous, car les chiffres sont là. Alors tout le monde est en train de s'alarmer par peur du coronavirus, mais croyez-moi, il y a plus grave, et là, personne ne bouge. Bizarre. Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages et jardins des hommes, lui, ne fume pas, trop respectueux de la nature et de l'environnement, et on le retrouve bien sûr pour notre rubrique « Jardiner autrement ». Et puis c'est aujourd'hui que débute la Semaine mondiale du Rhin, et le docteur Guy de Regnaucourt nous sensibilisera à l'importance des maladies rénales, affections silencieuses dont le diagnostic tardif multiplie les conséquences.
Fallait une bonne envie et pas avoir le choix. Prendre la pile électrique, trouver le papier de soie. Marchant, courant, chantant, pressé ou pas pressé, on devait traverser la cour, puis le potager. Oh, c'était loin, oh, vachement loin, mais c'était bien, c'était vachement bien. Dans le fond du jardin, il y avait des loups planqués dans les patates. Une sorcière attendait qu'on passe dans les tomates. Il y avait parmi les choux de drôles d'habitantes qui augmentaient d'autant les effets de la courante. On avait peur, oh vachement peur, mais c'était bien, c'était vachement bien. Dans le fond du jardin, quand venait le mauvais temps et le froid de l'hiver, les planches laissaient passer un petit courant d'air. On gardait son manteau baissant son pantalon pour pas choper bêtement le fameux rhume de fond. On avait froid, oh vachement froid, mais c'était bien, c'était vachement.
Yvon Etienne sur Radio Plus. Alors, dans notre enquête de cette émission, dans l'air du temps, notre enquête, c'est le résultat d'une étude menée à l'Université de Michigan avec 17 303 cas étudiés. Alors, il paraît qu'on a plus de chances qu'on nous rende un porte-monnaie perdu s'il contient de l'argent que s'il est vide. Ah bon ? Parce que soi-disant, en gardant de l'argent, on diminue l'estime de soi. Alors cela veut dire que notre honnêteté augmente face à un portefeuille bien plein. Et l'enquête ajoute qu'il vaut mieux perdre son porte-monnaie en Suisse ou en Norvège, où les chances de le récupérer dépassent 70%. Alors je ne vous dirai pas dans quel pays il ne faut absolument pas le perdre, n'est-ce pas ? Il paraît que c'est une question de niveau d'éducation. Alors justement, leçon d'éducation avec François Morel.
Il ne faut pas manger les oreilles de son père, même si on est taquin, même si on a trop faim. Il ne faut pas non plus énucléer sa mère, même si on est colère, si on est sur les nerfs. Ne chatouillez jamais sous les bras d'un serpent, même si c'est très tentant, même si c'est amusant. Il vaut mieux éviter de lapider son fils, même si on est grognon, un petit peu chiffon. Apprenez par ailleurs qu'il est déconseillé de fumer car ça tue, de péter car ça pue. Il ne faut pas non plus écraser les piétons, même s'ils sont engagés sur les passages cloutés. Il vaut mieux quand on peut ne pas tuer ses enfants, sauf s'ils sont négligents pour se brosser les dents. Il faudrait éviter d'étouffer ses aïeux, sauf s'ils sont trop hargneux, sauf s'ils sont ennuyeux. Il ne faut pas tirer sur la queue des panthères, le félin susceptible peut être imprévisible. Apprenez par ailleurs qu'il est déconseillé de fumer car ça tue, de péter car ça pue. Si vous avez reçu, venant de l'Élysée, un mot d'invitation, tentez la distinction. Il est inconvenant de dire au président, comme ça de but en blanc, n'auriez pas du vin blanc. Il serait déplacé d'ajouter président, je le dis franchement, vous sentez la jument. Il ne faut jamais dire à la reine d'Angleterre, j'ai l'impression, Altesse, vous avez pris des fesses, non, je me trompe ou pas? Apprenez par ailleurs qu'il est déconseillé de fumer car ça tue, de péter car ça pue. Si scrupuleusement vous suivez comme il faut ces recommandations, ces quelques instructions, vous pourrez toujours vous en sortir dans la vie. Ce n'est pas compliqué, juste à mémoriser.
1, 2, les enfants.
Il ne faut pas manger les oreilles de son père.
Très bien.
Même si on est taquin, même si on a trop faim.
En effet.
Il ne faut pas non plus énucléer sa mère.
Et comment ?
Si on est colère, si on est sur les nerfs.
Absolument.
Ne chatouillez jamais sous les bras d'un serpent.
Jamais.
Même si c'est très tentant, même si c'est amusant.
Oui, c'est amusant, mon frère. Vous voulez reprendre les enfants ? Non ? Ah bon, comme vous voulez.
France ! Oh là là ! Monsieur Larsen est avec nous. Alors François Morel sur Radio Plus. Et oui, il est déconseillé de fumer car ça tue, dit-il. Oh, ce n'est pas pas grand-chose. Hein. Le tabac ne tue que 8 millions de personnes chaque année, dont 1,2 million de non-fumeurs involontairement exposés à la fumée. Alors ce qui est bizarre, c'est que pour cela, il n'y a pas de ruée vers les masques, ni de grandes décisions gouvernementales, ni d'annulation de manifestations en plein air, d'ailleurs au cours desquelles bon nombre de fumeurs ne se gênent pas pour vous mettre leurs cigarettes et leur fumée dans le nez. Bon, quelqu'un me disait que ce qui nous manque le plus, c'est le bon sens. Bref, parlons-en de ce tabac avec Jean-Louis Ouettet, président de l'Étrême Nature.
Sur la planète, oh, le drôle, de temps.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Alors surtout, ne pas jeter son mégot dans les toilettes, nous a dit Jean-Louis lors d'une précédente émission dans laquelle nous traitions du fait des Français qui prennent leur cuvette de WC pour une poubelle. Mais vous qui fumez, eh bien justement, jetez-vous vos cigarettes dans la rue en vous disant qu'un mégot de plus ou de moins ne fera pas la différence. Eh bien, vous n'êtes pas le seul, malheureusement. Des millions de personnes pensent comme vous. Résultat, vous jetez environ 4 milliards 300 000 millions de mégots par an dans la rue, ce qui correspond à 137 000 mégots par seconde. Un problème majeur pour notre environnement. Alors je me souviens que Nicolas Hulot fustigeait le manque de conscience écologique de nos concitoyens qui continuent largement à pratiquer ce genre de comportement. Et nous vous expliquons pourquoi. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors on ne reviendra pas sur ce véritable fléau pour la santé qu'est le tabac. Chacun son problème et chacun a le droit de choisir sa façon de mourir, n'est-ce pas ? Par contre, notre rôle est d'informer sur les conséquences dramatiques pour l'environnement que provoquent le tabac et les mégots. Ces petites choses insignifiantes que l'on retrouve partout et que les fumeurs jettent par terre sans peut-être avoir conscience des portées de ce geste habituel, on va dire. Et le mégot n'est pas seulement du tabac non consumé, mais il y a bien souvent le filtre aussi avec.
Oui, tout à fait. Donc, allumer, consumer, puis écraser, le cycle de vie d'une cigarette, malheureusement, ne s'arrête pas à la troisième étape. 40 milliards par an, rien que la France, c'est le nombre de mégots qui finissent chaque année dans la nature. Donc, un mégot, ça a beau être petit, il n'en reste pas moins qu'il est très, très polluant. Son filtre, pour ne parler que du filtre, ça contient des milliers de substances toxiques qui sont, le filtre est très lent à se dégrader, le processus se compte en années, voire en décennies. Et puis, qu'il se termine, ces mégots, souvent, ça se termine dans la mer. Hein. Et donc, ces milliards de mégots jetés chaque année représentent vraiment un désastre écologique. Il faut savoir que les grandes villes françaises sont asphyxiées justement par les mégots. À Paris, c'est 2 milliards de mégots, 350 tonnes qui sont ramassées chaque année à Paris. 500 millions à Marseille, hein, la Provence, Marseille-Provence métropole. À Lille, 100 millions de mégots. Donc on voit vraiment que c'est des chiffres astronomiques.
Alors, Jean-Louis, je comprends donc que chaque mégot est une substance nocive, voire cancérigène, qui contamine à la fois l'eau, vous venez de le dire, l'air et les sols. Mais en plus de ces dégâts générés sur la Terre, ils sont aussi la principale source de pollution des océans, comme vous le disiez à l'instant. Un peu finalement comme les pailles ou les sacs plastiques dont nous avons parlé récemment.
Oui, tout à fait. Hein. Faut savoir que les mégots, chaque fois qu'on va jeter un mégot dans le caniveau, faut savoir que tôt ou tard, c'est un mégot qui va se retrouver dans la rivière et qui va se retrouver à la mer. Et puis aussi, faut savoir que, par exemple, quand on nettoie les plages, on retrouve 30 à 40% des déchets, ce sont des mégots. Les 30 à 40% des déchets nettoyés sur les plages sont des mégots. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 4000 substances chimiques qui sont contenues dans une cigarette. Hein. Alors, ces substances chimiques, c'est du goudron, du mercure, du plomb, du méthanol, et j'en passe. Hein. Il y a énormément de substances chimiques. Et il faut savoir qu'un mégot, un seul mégot peut polluer 500 litres d'eau. Donc, quand on jette un mégot dans l'eau, ce dernier va se diluer. Toutes les substances chimiques qui sont absorbées, vont se diluer dans l'eau. Et un seul mégot peut polluer 500 litres d'eau à lui tout seul. Donc on imagine à chaque fois qu'on jette un mégot dans le caniveau, on imagine ce qui se passe. Et puis un mégot, ça ne se dégrade pas comme ça. Il faut savoir que ça met plus de 12 ans pour se décomposer. Donc le phénomène est un phénomène qui est assez qui est grave. Et c'est une source majeure de pollution. Donc le ministère de la Transition écologique a sorti d'ailleurs une plaquette sur le sujet. Et c'est vrai qu'au niveau des plages, c'est le déchet plastique le plus souvent retrouvé juste derrière les bouteilles. Donc sujet éminemment important.
Alors moi j'ai l'impression que les gens se disent bon bah finalement c'est du tabac, c'est une... mais non
oui,
il y a
oui, c'est pas grand chose, oui, oui, bon. Un petit mégot, qu'est-ce que c'est? Et puis finalement on voit, quand on voit tous les produits chimiques qui contient, et puis le nombre de mégots qu'on peut retrouver sur ces plages, c'est assez inquiétant.
Alors, bien sûr, nous parlons pollution et environnement, n'est-ce pas, puisque c'est le fil conducteur de cette rubrique hebdomadaire. Mais Jean-Louis, on peut peut-être aussi parler finances, car les mégots coûtent cher aux villes.
Bah oui, parce que c'est un réel coût pour la collectivité. Il faut savoir que le ramassage des mégots sur la voie publique, c'est actuellement à la charge des services de propreté des collectivités. Bon, c'en est la même chose pour l'entretien des plages publiques. Donc, le ramassage, il est financé par quoi? Il est financé par les impôts locaux. Donc, avec un coût annuel de la propreté urbaine par habitant qui est estimé à 38 euros, ce qui est loin d'être négligeable. Et il faut savoir que le coût moyen annuel de la propreté au kilomètre de voirie est estimé à 13 000 euros. Donc, c'est vrai que c'est une source de dépenses importante pour les collectivités. Je prends comme exemple le coût de la propreté, par exemple, du Grand Lyon par année, c'est 55 millions d'euros. Donc, pour des communes plus petites, si je prends pour des villes plus petites, je prends Valence, par exemple, c'est 3,2 millions d'euros. Si on prend les plages, un exemple pour 6 km de plage, 102 000 euros. Donc c'est quand même des chiffres assez importants. Donc je crois qu'il y a lieu de réfléchir justement à ce coût, parce que c'est vraiment issu des impôts locaux.
Alors Jean-Louis, justement, y a-t-il des solutions? C'est vrai que tous les candidats aux élections municipales sont en train de rédiger leur profession de foi. Alors ce serait peut-être bien d'y inclure quelques idées pour enrayer ce fléau, car bien sûr cela a des conséquences sur l'environnement, mais aussi, il faut le dire, sur la santé des générations futures. Et à côté, eh bien, le coronavirus n'est qu'un fétu de paille finalement. Comment pourrait-on limiter ces déchets difficilement recyclables? Faudrait-il un agent de police derrière chacun, Jean-Louis?
Il faut savoir qu'il y a déjà une réglementation qui est en place. Faut savoir que la loi est claire, un mégot par terre, c'est 68 euros d'amende. Donc il faut savoir qu'à Paris, on ramasse 10 millions de mégots par jour. L'année dernière, en 2018, il y a eu 36 000 fumeurs qui ont été verbalisés. Dès l'an prochain, il faut savoir que les cigarettiers vont aussi mettre la main à la poche, selon le principe du pollueur-payeur, ce qui est normal. Donc ils devront financer la sensibilisation et participer au nettoyage. Mais bon, c'est vrai que c'est loin d'être suffisant. Et donc, je pense qu'il y a encore du travail, il y a encore du pain sur la planche.
Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, je disais, Jean-Louis, que déchets difficilement recyclables, mais je sais que certaines entreprises y pensent quand même. Alors, voulant innover dans quelques solutions, il y a peut-être des solutions.
Oui, parce que changer les comportements, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Alors pour ça, il y a des communes, des associations qui mettent en place des actions, par exemple comme des cendriers de poche. On en voit de plus en plus sur les plages et dans les festivals. À terme, le vrai enjeu sera le recyclage des mégots. Mais il faut savoir que c'est un sacré défi, parce qu'avec tous les produits chimiques qu'il y a à l'intérieur, c'est pas une opération très simple. Mais de nombreuses villes villes françaises mettent en place régulièrement des opérations zéro mégot. Alors, bon, si on prend comme exemple la métropole de Nantes, hein, en 2018, elle a mis à disposition des établissements partenaires, bon, essentiellement des bars, des restaurants, bon, ces cendriers de poche dont on a parlé, ainsi que des cendriers de terrasse. Et puis les mégots qui sont récoltés bah, par les établissements partenaires sont recyclés par une société pour leur donner une seconde vie. Alors pour les transformer en objets divers, que ce soit des pots à crayons, des règles, bah, des cendriers aussi. Donc ces initiatives bah, se multiplient de plus en plus, aussi bien dans les centres-villes que sur les campus, dans les montagnes et sur les plages. Mais bon, ces initiatives qui sont très précieuses et indispensables, sont malheureusement loin d'être suffisantes à l'échelle mondiale et donc il faut poursuivre.
Alors Jean-Louis, merci de ne pas avoir mégoté, on va dire.
Sur... J'espère que mes explications n'ont pas été fumeuses.
sur vos explications. Alors, j'espère de tout cœur que nous avons été entendus par les personnes intéressées. Alors, par contre, Jean-Louis, me permettrez-vous une petite réflexion personnelle? Bon, je précise qu'elle n'engage que moi, mais alors chaque semaine nous traitons un sujet environnemental qui met en danger plus ou moins notre société ou qui l'expose à certains risques et qui met en danger aussi les générations futures. Alors et souvent nous avons d'ailleurs à déplorer un certain laxisme de nos autorités et puis une certaine indifférence de la part d'un bon nombre. Or actuellement nous vivons quelque chose d'assez effarant, tous ces gens qui cèdent à la peur panique et qui ont des comportements, on va dire, irrationnels, hein, comme dans les magasins, etc., etc. Les gens deviennent un petit peu paranoïaques, même devant ce coronavirus. Alors ça devient presque, de l'avis de beaucoup, une hystérie médiatique. Alors, je citerai le professeur Didier Raoul, un chercheur biologiste spécialisé en maladies infectieuses, qui a découvert avec son équipe plus de 60 nouveaux virus et qui affirme que ce virus n'est pas si méchant et que le risque le plus important est la panique. Alors, pour ne plus céder à cette peur panique, ne faudrait-il pas se souvenir d'éteindre un petit peu sa télévision et de couper son flux d'informations? Et puis, on peut aussi méditer sur cette phrase d'Albert Camus, un journal libre se mesure autant à ce qu'il a dit, à ce qu'il dit qu'à ce qu'il ne dit pas. Et j'ajouterai celle-ci, la peur n'évite pas le danger et le pire n'est jamais sûr. Alors, en tant qu'optimiste, vous, Jean-Louis, vous pensez quoi de tout cela?
Ben, moi, je suis pas de cet avis, hein, même s'il est vrai qu'il faut pas céder à la panique. Hein. Moi, je fais confiance quand même à la grande majorité des scientifiques. Alors, on peut toujours trouver un spécialiste, un médecin qui va dire le contraire, hein, mais je fais quand même confiance à la grande majorité des scientifiques qui prennent cette crise très au sérieux et qui nous conseillent d'être vigilants. Il faut savoir que la vie en société impose des règles à respecter, même si elles sont contraignantes. Donc, se laver les mains, faire attention, moi je pense que c'est important. Bon, avant d'éteindre sa télévision, il faudrait peut-être aussi couper les réseaux sociaux, parce qu'on y voit circuler des tas d'informations tout aussi contradictoires les unes que les autres, et puis des théories du complot qui commencent à se répandre. Je pense que là, c'est vraiment aussi un virus dont on ne parle pas, mais qui est aussi dangereux que d'autres virus. Donc moi je dis qu'il faut quand même faire attention. Donc je pense qu'il faut être trop vigilant parce que bon c'est quand même des choses nouvelles et puis on est quand même un peu démunis face à, même si c'est pas beaucoup plus dangereux que la grippe, pour l'instant il faut être vigilant. Donc voilà, je suis pas tout à fait donc du même avis.
Mais on se lave les mains, vous ne vous lavez pas les mains de façon systématique, Jean-Louis ?
Mais si, on se lave les mains de façon systématique.
On se lave les mains et puis bon.
Que, bon, il faut quand même être vigilant. Je pense qu'il y a des règles à respecter. Je pense que bon, si je prends par exemple le gouvernement italien qui décide de mettre en quarantaine une vingtaine de millions d'habitants, ils font pas ça de gaieté de cœur, donc il y a quand même des raisons éminemment importantes qui poussent à prendre ces décisions. Donc on prend pas des décisions comme ça à la légère. Donc voilà, moi je pense qu'il faut être vigilant.
Bon, alors on va se coucher, on va mettre son drap sur le nez et on ne bouge plus. Merci Jean-Louis.
Non, je pense que non, mais bon, faut pas tomber non plus dans la caricature. Donc,
On se dit à lundi en tout cas, vous serez avec nous quand même.
Oui, bien sûr.
Merci, à lundi Jean-Louis. Allez,
bonne semaine à vous.
Piétiner des bouts de mégots sur le trottoir, c'est pas la peine d'aller fourrer dans son ego des idées noires, c'est pas la peine.
C'est pas la peine.
C'est pas la peine. C'est pas la peine de tortiller des allumettes dans un sandar, c'est pas la peine de dégueuler. C'est bien sur le bord du boulevard, c'est pas la peine.
C'est pas la peine.
C'est pas la peine. C'est presque une figure de style que notre raison somnubile. On a le sens de l'inutile quand l'amour se fait volatile, qu'il se débile.
Qu'il se débile.
C'est pas la peine de se flageller avec le fouet du remords. C'est pas la peine de s'affliger tous les excès et tous les torts. C'est pas la peine.
C'est pas la peine.
C'est pas la peine. C'est pas la peine d'envisager une vie d'asset dans le Grand Nord. C'est pas la peine de s'enfermer, de ne plus mettre le pied dehors. C'est pas la peine.
C'est pas la peine.
C'est pas la peine. C'est presque une figure de style que notre raison somnubile. On a le sens de l'inutile quand l'amour se fait volatile. Qu'il se débile.
Qu'il se débile. C'est pas la peine.
C'est pas la peine de s'agenouiller dans de ridicules prières. C'est pas la peine de griffonner moult poèmes testamentaires. C'est pas la peine.
C'est pas la peine.
C'est pas la peine. C'est pas la peine de se projeter dans des lendemains délétères. C'est pas la peine d'ignorer que tout appartient à la guerre. C'est pas la peine.
C'est pas la peine.
C'est pas la peine. Piétiner des bouts de mégots sur le trottoir, c'est pas la peine d'aller fourrer dans son ego des idées noires, c'est pas la peine.
C'est pas la peine.
Yves Jamais sur Radio Plus, et tout de suite, justement, on met le nez dehors avec Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Et oui, jeter son mégot par terre, un geste pas très glorieux à la base, qui montre que l'on prend la nature pour une poubelle. Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour auditeurs.
Alors je suppose Bertrand que tout comme moi, vous devez être ulcéré par cette attitude. Je me souviens que le député des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert, avait déposé une proposition de loi afin d'interdire les cigarettes dont les filtres ne seraient pas compostables. Cela partait d'une très bonne intention, mais je ne pense pas Bertrand que ce soit la panacée. Et surtout pas de mégots dans votre jardin ni dans votre compost, n'est-ce pas?
Alors, oui. Effectivement, donc les mégots de cigarettes sont forcément toxiques, hein. En grande majeure partie sont non biodégradables. Alors on y retrouve la nicotine, des métaux lourds, plus certains polluants issus de la combustion comme le benzène, les furanes et tout ça. Donc ils mettent en plus une douzaine d'années pour se décomposer. Alors la ville de Paris, comme disait Jean-Louis, en ramasse 350 tonnes de mégots par an. Hein, dans le monde, ce sont des milliards et des milliards de mégots qui chaque année se retrouvent dans le sol, puis dans les égouts, les rivières, et puis terminent à la mer. Donc franchement, c'est pas la panacée. Alors si faire des filtres qui soient compostables semble être une bonne idée, moi, tu vois, j'en voudrais surtout pas dans mon compost. En tout cas, il y a tellement de polluants, de métaux lourds dans les mégots. Donc pour moi, la meilleure solution, ce serait que les gens arrêtent de fumer, tout simplement. Hein. Ça, ce serait un bon geste pour leur santé déjà et pour la planète. Hein. Bon, mais je comprends. Non, mais je comprends que c'est pas facile pour tout le monde et qu'ils n'y arrivent pas. Hein, mais qu'ils utilisent au moins un cendrier de poche et qu'ils jettent pas leurs mégots par terre. Hein. Ce serait vraiment un bon geste pour tout le monde. Quoi.
Tout à fait. Un cendrier de poche pour les mégots, et puis une petite boîte aussi pour mettre les déchets, les déjections canines, n'est-ce pas?
Exactement. Arrêter de fumer, ce sera encore mieux.
Oui. Non mais Jean-Louis parlait de civisme et de comportement en société, je crois que ça commence d'abord par là.
Oui, exactement. Oui.
Alors, nous voici dans le mois de l'arrivée du printemps. Les jonquilles étaient bien là ce dimanche, là, le dimanche dernier, pour honorer les grands-mères, alors disons les mamies. Alors certes, c'est la fleur par excellence assimilée à cette fête, peut-être parce que je crois qu'elle symbolise l'espoir, le calme, la tolérance et la détermination. Et ce que je ne savais pas, Bertrand, c'est qu'il existe des jonquilles d'autres couleurs que le jaune.
Je ne savais pas ça. Ah oui, mais il en existe de nombreuses autres couleurs que le jaune. Hein. C'est une magnifique plante bulbeuse. Hein. On en trouve des qui sont toutes blanches, qui sont simples ou doubles. Hein. Des blanches avec des cœurs roses, des blanches avec des cœurs oranges, des blanches avec des cœurs jaunes, des jaunes avec des cœurs oranges. Voilà, des blanches avec des... Il y en a plein, une multitude. Donc, il existe notamment de nombreuses formes et de nombreuses tailles hein, différentes. C'est assez impressionnant. Et puis... De nos jours, on peut vraiment dire qu'on peut avoir un jardin tout en couleurs au printemps, avec une grande diversité de couleurs, rien qu'avec les jonquilles. Mmh. Alors les sélectionneurs qui enregistrent leur nouveau cultivar chaque année, hein, par nom et par couleur, en produisent de plus en plus. Donc il y en aurait un peu plus de 18 000 enregistrés. Donc là, il n'y a pas de doublon, 18 000 d'enregistrés, mais seulement 500 qui sont produits pour la vente. Quoi. Donc il y en a déjà largement pour satisfaire tous les jardiniers.
Mmh. Alors c'est la Saint-Françoise aussi aujourd'hui, on leur souhaite une bonne fête bien sûr. Et le dicton dit « Semer à la Saint-Françoise, ton grain aura du poids ». Oui, mais vous nous avez dit qu'il est encore un peu tôt pour semer, alors pas de précipitation, n'est-ce pas?
Non, tout à fait. Alors bonne fête aux Françoises. Alors effectivement, c'est encore un peu tôt, les sols sont encore bien détrempés, hein. Je ne sais pas si vous êtes dans le jardin, et les niveaux dans les rivières montent, ça fait peur. Et le sol est encore bien trop froid pour accueillir les graines, hein. Alors, mais pas de panique, hein, on peut toutefois semer des engodés au chaud si on veut avoir des légumes en avance, hein, de nombreux légumes, hein, pour les repiquer ensuite en place, lorsque le temps sera plus clément. Donc c'est bien sûr le cas de la salade, hein, on pique dans des petits godets des graines de salade, mais également des petits pois. Et certaines personnes vont mettre même dans des pots des échalotes dans des godets et les repiquent après. Mmh. Alors c'est un choix, ça fonctionne très bien. Mais pas de précipitation excessive, hein. Le beau temps va bientôt être là, et on pourra passer de bons moments au jardin. Et faire tous nos semis.
D'accord. Et puis, il y a ce dicton aussi, Bertrand, qui dit « Taille tôt, taille tard, rien ne vaut une taille en mars ». Alors attention, il sera bientôt trop tard pour tailler les rosiers.
Alors oui, bien sûr, c'est encore le moment de tailler les rosiers, mais d'autant que la végétation repart, donc il faut vraiment se dépêcher. Donc si c'est pas encore fait, ne tardez pas à les tailler. Donc on va pas parler de taille des rosiers, parce qu'il y a tellement de tailles différentes selon les types de rosiers. Hein. Mais je dirais que c'est la même chose pour tous les arbustes, la floraison estivale. Il est temps de terminer la taille des arbustes de floraison estivale, de même que pour les arbres à pépins, les pommiers, les poiriers.
Et puis alors, ce qui est formidable, c'est que la vie reprend, il y a des petites choses qui commencent à voler.
Ah bon? Donc je dirais effectivement, il y a le pollen hein, qui peut se répandre dans l'air que nous respirons en ce moment. Hein. Mais en ce moment, on trouve surtout du pollen de sol, de noisetier, d'aulne. Hein. Ce ne sont pas des pollens très allergisants. Hein. Mais on voit arriver également des pollens de bouleau, de charme. En avril, ce sera le tour des cyprès. Alors les cyprès, c'est très allergisant, le pollen des cyprès, hein, mais également d'autres arbres. Hein. Alors le risque d'allergie deviendra plus important avec la montée en température, hein, et chaque année c'est la même chose. Hein, au printemps, ceux qui sont allergiques au pollen vont de nouveau avoir quelques problèmes respiratoires. Hein. Alors pour la plupart, c'est très désagréable, souvent bénin, heureusement d'ailleurs, mais il y en a quelques-uns qui vont souffrir de ce pollen.
Alors quand je disais qu'il y a des petites choses qui commencent à voler, je voulais dire aussi qu'on commence à voir les premiers bourdons.
Ah oui.
Je parlais pas trop
des petits animaux alors qui
des
commencent à voler.
Des petits animaux, oui, des petits insectes, on va dire.
D'accord. Ah, j'avais pas compris comme ça. Donc effectivement, les bourdons sont un peu les premiers insectes qui vont sortir bien avant les abeilles parce que les abeilles vont sortir quand les températures sont un peu plus clémentes, un peu plus de soleil. Mais eux, ils ont un corps qui est plein de petits poils, tout ça, donc ils résistent beaucoup plus aux températures plus basses. Donc ils sortent beaucoup plus vite.
Donc voilà.
Ils sont très bons pollinisateurs.
Tout à fait, on les protège. Alors Bertrand, est-il vrai que la peau des bananes, fruits que l'on trouve toute l'année sur les étals, regorge de propriétés bénéfiques pour les végétaux?
Alors oui, tout à fait. Hein. Les peaux de bananes sont très riches en minéraux. Alors plutôt que de les jeter à la poubelle, autant les mettre au jardin pour fertiliser. Hein. En plus des minéraux, elles sont très riches en potassium, elles contiennent du magnésium, du fer. Donc la peau de banane, c'est donc une matière organique qui peut servir d'engrais. On peut la découper en petits morceaux, hein, on peut la laisser sécher, mais c'est pas obligatoire. Et on la dépose au pied des rosiers, on griffe un peu pour l'incorporer en surface. Et en plus d'enrichir le sol, elle aura pour un effet répulsif contre les pucerons. On peut également la découper et la mettre dans le tas de compost qu'elle va enrichir. Et puis il y a certains qui prennent les peaux de banane, qui la mettent dans un récipient avec de l'eau, qui les laissent macérer 2 à 3 jours, et puis cette eau enrichie va leur servir à arroser leurs plantes.
D'accord.
Alors, franchement, ce serait dommage de jeter à la poubelle.
Comme fortifiant ou engrais, on va dire.
Oui, tout à fait.
Eh bien Bertrand, merci. Alors je rappelle aussi que vous êtes le président de l'Association des paysages des jardins et des hommes, et que votre association participe à la semaine de la fraternité, organisée par la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. Alors pourquoi et comment? Très vite Bertrand.
Alors, on retrouve nos fraternités sur les frontons de nos mairies hein, et de nos écoles. C'est au même titre que liberté et égalité, la fraternité, c'est la politique de la main tendue. C'est un des pivots de nos valeurs de l'école de la République. Donc, la semaine de la fraternité est organisée par la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, à laquelle nous adhérons, et on s'associe tout à fait à cette démarche. Donc, pour notre association, ce sera d'accueillir le mercredi 11 mars, de 10h à 16h, toutes les bonnes volontés, afin de nous aider à créer une mare au jardin de l'Ermite à Vesquerque, hein, mais aussi quelques autres travaux. Donc moi, je remercie à l'avance toutes les bonnes volontés qui viendront ce jour-là. Ça fera une bonne ambiance de partage et de fraternité.
Au jardin de l'Ermite, donc, à Averskerk.
Rue de la Gauguerie à Averskerk.
Rue de la Gauguerie. Voilà, l'appel est lancé. Merci à vous, Bertrand, et très très bonne semaine. Et puis bon courage, et je vous dis à lundi.
Merci, et à lundi.
J'ai connu Emily aux premières jonquilles. Elle était si jolie, des jonquilles au dernier lilas. Dans la ferme endormie, chaque fois que j'allais la voir, son père avec un fusil m'attendait derrière l'abreuvoir. Il me chassa
aux premières jonquilles,
me fusilla là-bas,
des jonquilles au dernier lilas.
Mais un jour dans la grande joue, aux premières jonquilles, elle sauta sur mes genoux, des jonquilles au dernier lilas. Une fourche me piqua, je me relevai en hurlant. J'ai beau fuir à travers bois, son père me jeta dans l'étang. Il me piqua
aux premières jonquilles,
elle me fourcha
des jonquilles au dernier lilas.
Mais dans le grenier sur le foin, aux premières jonquilles, puis sa fille et puis son vin, des jonquilles de Lila. Son père voyant le tableau me fit connaître un peu plus tard les grenouilles et les crapauds au fond de la mare aux canards. Il m'injuria, salaud.
Ah oui.
Hugo Frey sur Radio Plus. Alors, un petit peu plus sérieux, un Français sur 10 est concerné par une maladie rénale. Plus de 3 millions de personnes en France sont victimes de maladies rénales chroniques. Alors commence aujourd'hui la semaine du Rhin, même si France Rhin pense qu'il serait irresponsable de maintenir cette semaine avec ces opérations de dépistage à cause du coronavirus. J'ai pour ma part décidé de vous en parler quand même, et ce avec le docteur Guy de Rognecourt. En effet, plus de 20% des malades sont encore aujourd'hui découverts au stade d'insuffisance rénale terminale, nécessitant une dialyse en urgence. Et il faut savoir que la maladie du Rhin tue, elle aussi, mais sans faire de bruit. Et en l'occurrence, ce ne sont pas des personnes très âgées qui sont touchées. On remet donc, permettez-moi l'expression, l'église au milieu du village, et on parle de ces maladies rénales qui tuent davantage que ce virus qui circule. 600 millions de personnes dans le monde et plus de 3 millions de personnes en France sont touchées par les maladies rénales, c'est-à-dire qu'il est important de sensibiliser le grand public à l'importance de ces maladies, affections silencieuses dont le diagnostic tardif multiplie les conséquences. Alors cette semaine sera consacrée à cet organe de l'appareil urinaire avec sa journée mondiale, des colloques et peut-être des prises de décision pour favoriser l'avancée de cette grande cause. Docteur de Haugnoucourt, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, n'aurait-on pas tendance, docteur, à sous-estimer le rôle du rein dans notre organisme, rôle majeur pourtant?
Oui, le rôle est majeur puisque le rein fait partie des organes nobles qui détoxifient, régularisent et évacuent, je dirais, ce qu'on appelait avant les émonctoires. C'est le deuxième filtre avec le foie. Ce rein est composé principalement du néphron et ce néphron comporte un glomérule et un tubule. Alors, je vais être très court, hein, mais il faut quand même que j'explique que le glomérule filtre pour former les urines, en séparant le plasma de l'eau et en enlevant les éléments en surcharge. À travers le tubule sont donc régulés le glucose, le sucre, les bicarbonates, les acides aminés, les phosphates, le calcium, c'est très important, le sodium, c'est encore plus important. Et cela permet de rétablir ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Voilà. Enfin, le rein a une dernière fonction endocrine tout aussi importante pour réguler et fabriquer la vitamine A, la vitamine D, ce qu'on appelle l'EPO, pour avoir un bon sang riche. Et tout cela est régularisé par la rénine-angiotensine qui régularise la tension.
Donc, il faut en prendre soin. Et vous nous direz comment. Alors, on devine que les maladies du rein sont nombreuses. Elles conduisent souvent à ce qu'on appelle une insuffisance rénale aiguë ou chronique. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elles sont souvent la conséquence d'une autre maladie ou d'une autre pathologie.
Oui. Alors, il y a d'abord des maladies, je dirais, primitives du rein. Ce sont les calculs dont on peut souffrir tous. C'est des défauts anatomiques. C'est une insuffisance rénale aiguë et chronique qui apparaît à l'occasion de ce qu'on appelle l'inflammation du rein, la glomérulonéphrite, ou l'infection du rein. On parle beaucoup d'infection en ce moment, c'est la pyélonéphrite. Enfin, le rein peut avoir d'autres anomalies anatomiques, telles que des kystes et bien sûr des tumeurs. Vous savez que le cancer du rein est très silencieux. Enfin et surtout, et c'était là le propos de la question, le rein est un facteur pathologique de comorbidité quand on est diabétique, quand on est hypertendu, quand on est obèse, quand on a des signes de déshydratation, quand on est infecté, quand il y a un obstacle à l'écoulement du rein, quand on consomme des toxiques, quand on a des maladies métaboliques telles que la goutte, le rein souffre.
Alors justement, donc hypertension artérielle, diabète, obésité, ceci veut dire que des mesures hygiéno-diététiques sont nécessaires pour prévenir l'apparition de maladies rénales chroniques. Alors docteur de Haugnoucourt, y a-t-il des moyens de réduire le risque de développer une maladie rénale? Faisons avec vous un petit peu de prévention, on va dire.
Oui, c'est le plus important. En France, il faut plutôt prévenir que guérir, comme partout dans le monde. Alors prévenir comme le diabète, comme l'hypertension, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Dans l'alimentation, il faut baisser le sel, avoir suffisamment de calcium, il faut avoir une activité physique adaptée, il ne faut pas être trop gros, hein, donc perdre du poids, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire beaucoup d'alcool, il faut prévoir régulièrement un contrôle cardiaque pour surveiller l'hypertension. Il faut supprimer les toxiques, et ce sont notamment certains médicaments dont on ne pense pas. C'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est les antiacides qu'on appelle les IPP. Enfin, il est important que votre médecin traitant, que vous consultiez régulièrement, fasse un dépistage de votre tension, donc de votre rein et de la glycémie.
Alors justement, le thème de cette semaine encadrant la journée mondiale du rein est « Bougez-vous pour vos reins et bougez vos pieds ». Donc d'après ce que vous venez de dire, il faut faire de l'exercice physique, on comprend donc le bien fondé de cette règle de conduite.
Tout à fait. Et bouger, c'est selon ses moyens. Alors, vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, vous faites une activité sportive. Plus vous avancez en âge, plus il faut quand même maintenir une activité régulière. Et l'idéal, c'est la marche ou la natation, par exemple, ou un peu de vélo.
Alors, docteur de Regnaucourt, on sait que dans toute maladie, la prévention est très importante, mais le dépistage aussi, d'autant qu'une maladie rénale n'entraîne longtemps que peu de symptômes. Alors, quand faut-il absolument se faire dépister? Est-ce que c'est un examen? Je pense que c'est un examen facile, d'autant.
Tout à fait. Se faire dépister, c'est l'analyse d'urine pour surveiller le diabète et c'est la prise de sang pour surveiller le taux de glycémie, c'est toujours la prise de sang pour surveiller le reflet de l'activité du rein, c'est ce qu'on appelle la créatinine, hein. Et avec cette créatinine, nous avons le calcul du débit de filtration du glomérule. Et on surveille de ce fait-là toutes les comorbidités qui peuvent entraîner cette fameuse insuffisance rénale sournoise et silencieuse.
Alors, se faire dépister, oui, c'est important, surtout quand on sait que l'insuffisance rénale chronique conduit souvent à la dialyse ou à une greffe, lorsque ça n'est pas plus sévère, bien évidemment.
Oui, alors, dans la dialyse, il y a deux formes de dialyse. C'est la dialyse qu'on pourrait presque faire à domicile, c'est la dialyse péritonéale, où on met simplement un petit cathéter, mais je n'ai pas entré dans les détails, entre l'espace vide, entre la paroi abdominale externe et la paroi de l'enveloppe péritonéale. Après, il y a la dialyse, l'hémodialyse, où là, on va dans un centre d'hémodialyse, où on filtre notre sang à travers des appareils spéciaux, des filtres spéciaux. Enfin, au pire, ou peut-être au mieux, à voir avec le corps médical, avec les spécialistes, c'est la greffe.
Alors justement, docteur, revenons sur la greffe ou transplantation rénale. Comme chacun sait, le rein prélevé peut être sur un donneur, peut l'être sur un donneur décédé, mais aussi sur un donneur vivant. Et de plus en plus, on parle de greffe intrafamiliale. Alors ma question est simple, peut-on vivre bien avec un seul rein?
On vit très bien qu'un seul rein. Auparavant, j'ai quand même expliqué brièvement qu'il y a donc des donneurs décédés, mais il faut qu'ils soient compatibles, qu'il y a des donneurs vivants, c'est cela de plus en plus, hein, c'est quelqu'un de la famille qui est compatible aussi, qui va donner son rein, nous avons des exemples célèbres, et il faut savoir que vivre avec un rein greffé améliore totalement la qualité de vie, ne nécessite que 2 à 4 semaines d'hospitalisation, bien sûr c'est important, et on doit prendre toute notre vie durant, des immunosuppresseurs. Il y a 85 000 personnes qui sont en insuffisance rénale terminale, il y a 17 000 personnes en attente de don du rein, et il y a 4 000 greffes par an en moyenne. Alors, je vais répondre à la dernière question. Vivre avec un seul rein, oui, bien sûr, c'est très facile. On vit avec un seul rein, il n'y a aucun problème. Ce rein-là compense largement l'activité de 2 reins. Il faut bien sûr avoir des hygiènes de vie régulières et normales. Il faut surveiller sa tension artérielle et ne pas faire ce qu'on appelle les sports violents. Sinon, la vie reste tout à fait normale.
Docteur de Regnaucourt, merci. Je crois que nous serons ensemble encore la semaine prochaine puisque démarra la semaine nationale de lutte contre les cancers. Merci docteur et à la semaine prochaine.
Exactement.
Merci.
Oui, bonne journée, bonne semaine.
Bonne semaine à vous. Ensuite, on se retrouve pour Kaléidoscope. Sinon, l'air du temps, ce sera à nouveau lundi prochain.